Écoutez le Poste National sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV. Il est 20h. Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. En conclave dès demain à Yaoundé, leur première conférence semestrielle pour l'année en cours, que va présider le ministre de l'administration territoriale Paula Tanganji, aura pour fil conducteur autorités administratives et maintien de l'ordre en période préélectorale. Un gros plan sur les effets négatifs des écrans sur les enfants, comment réduire leur dépendance aux outils numériques, à la télévision et surtout, comment promouvoir des activités de plein air et des jeux plus éducatifs. Question centrale du dossier du 20h avec dans le fauteuil de l'invité du soir, Madame Céline Victoria Foto, promotrice d'une campagne de sensibilisation des parents sur ce phénomène. CRTV Pôle Radio, les nouveaux responsables récemment nommés en poste. À leur installation ce jour, le directeur central Madeleine Sopikoto leur a recommandé le respect de leur cahier de charges. En sport, catch, le ministre des Sports et de l'Éducation physique salue les exploits de deux Camerounais sur la scène continentale et mondiale. Narcisse Mouelle Kombi a reçu ce jour Poney Vadex et Pina Humphrey. Bienvenue au journal. L'équipe des sages du Conseil constitutionnel désormais au complet. Madame Florence Harry a rejoint les 10 autres membres de cette instance ce mardi après sa prestation de serment devant le Parlement réuni en congrès et présidé par le président de l'Assemblée nationale Kava Yégué Djibril avec à ses côtés le président du Sénat Marcel Niat Ndifendi. Plus de précisions avec Thérèse Yolande Edima.
Une deuxième mandature pour Florence Rita Haré, membre du Conseil constitutionnel reconduite en janvier dernier par un décret du chef de l'État. Devant les deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, réunis en congrès et les nombreux invités à la cérémonie dont le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, les membres du Conseil constitutionnel et les membres du corps diplomatique, l'impétrante s'est engagée ce mardi lors du rituel de prestation de serment à servir avec loyauté et remplir les missions à elle confiées. Le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kava Yégué Djibril, avec à ses côtés le président du Sénat, Marcel Niat Ndifendi, a reconnu en Madame Haré, magistrate de formation, une personne compétente. Sa reconduction en qualité de membre du Conseil constitutionnel par le président Paul Biya est tout simplement la reconnaissance de ses mérites professionnels. Cette marque de confiance à une femme, ajoutera-t-il, est le témoignage vivant de la volonté du chef de l'État de promouvoir les femmes camerounaises à d'importants postes de responsabilité. Avec sa prestation de serment, Florence Rita Haré rejoint ainsi les 10 autres membres de la haute juridiction qui s'étaient prêtés à cet exercice il y a 3 mois, très exactement le 2 avril 2024. Elle n'a pas pu honorer ce rendez-vous pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le Conseil constitutionnel affiche donc désormais complet.
Autorités administratives et maintien de l'ordre en période préélectorale, c'est sous ce thème que va se tenir dès demain à l'hôtel de ville de Yaoundé la première conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2024. Les travaux seront présidés par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji. Contexte des assises de Yaoundé, Constance.
La fièvre des élections de 2025 monte progressivement au sein de la population et des activités des partis politiques. Les inscriptions sur les listes électorales laissent entrevoir un engouement particulier des Camerounais à participer au scrutin. Dans le même temps, des leaders de formations politiques se font entendre sur l'avenir du pays au lendemain des joutes électorales de 2025, avec un large écho à travers les réseaux sociaux. Par ailleurs, certains partis politiques connaissent des remous en leur sein dont les conséquences peuvent avoir un impact sur l'ordre public, du grain à moudre pour les gouverneurs des régions dont la vigilance devra monter d'un cran d'ici l'année prochaine pour assurer le maintien de l'ordre dans la circonscription administrative. Fait inhabituel, un segment de la première conférence des gouverneurs des régions sera marqué par des délibérations en présence de quelques leaders des partis politiques et de la presse. Les travaux de Yaoundé interviennent également dans un contexte marqué par la recrudescence des accidents de la circulation avec des pertes en vies humaines, le trafic des ossements humains qui gagne en intensité, le problème des voiries urbaines et la sempiternelle question des ordures ménagères. Autant de sujets d'intérêt général qui préoccupent les citoyens et dont la bonne gestion peut contribuer à garantir une période préélectorale sereine pour les autorités administratives.
Suite des préparatifs de la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, l'ambassadeur du Royaume du Maroc et le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de la République de Tunisie étaient respectivement reçus ce mardi au ministère des Relations extérieures par le ministre Mbela Mbela et le secrétaire général Shinmun Oumarou. Des invitations sont adressées à leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, attendus à Yaoundé les 27 et 28 juillet prochain. Compte rendu, William Badi.
Résidence du haut-commissaire du Canada au Cameroun le 1er juillet 2024, jour de fête, jour de gloire pour un pays ami du Cameroun. Dans les jardins fortement colorés, c'est une marée humaine dans laquelle l'on peut clairement identifier les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les invités spéciaux, la communauté canadienne et les amis du Canada. Dans un discours qui alterne habilement le français et l'anglais que les deux pays ont en partage comme langue officielle, Madame le Haut-Commissaire, Son Excellence Lorraine Anderson, a relevé pour s'en féliciter la coopération riche et diversifiée qu'entretiennent les deux pays.
Les priorités nationales du gouvernement du Cameroun en matière de technologie de l'information, d'énergie propre, d'infrastructure et d'éducation sont alignées avec le travail que réalise notre service délégué commercial au sein du Haut-Commissaire du Canada.
Au-delà de la coopération, le Haut-Commissaire a bien voulu partager avec ses invités quelques valeurs chères au peuple canadien.
La politique d'aide internationale féministe du Canada connaît que le soutien à l'égalité des genres et un renforcement du pouvoir des femmes et des filles constituent le meilleur moyen de bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère. En 2022, le Canada a disposé d'un montant de 50,9 millions de dollars canadiens en aide internationale au Cameroun, incluant le projet opérationnel et récent qui met l'accent sur l'égalité des genres.
Le ministre des Relations extérieures y était représenté par Félix Mbayou, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth.
Passé de 7 minutes, place au dossier du 20h. Une immersion dans le monde digital pour relever l'impact négatif que peut avoir la surexposition aux écrans sur les enfants en cette période de vacances scolaires. L'addiction aux écrans d'ordinateur, de tablette, de smartphone est aujourd'hui une véritable préoccupation, un problème de santé affectant le développement harmonieux des enfants qui de plus en plus affiche de nombreux troubles du comportement. Réglementer l'usage des outils numériques à la maison est peu aisé et face aux dégâts, les spécialistes exhortent à la vigilance des parents. Agnès-Sylvia Nanzama.
Refus de partager la télécommande, des pleurs à chaque retrait du téléphone. Dans une famille rencontrée au quartier Tchinga à Yaoundé ce jour, la gestion de l'usage des écrans par les enfants est une véritable épreuve à surmonter.
C'est pas facile avec eux.
Les parents ayant vite jeté l'éponge face au comportement devenu turbulent de leurs enfants, c'est à la grand-mère de la maison d'essayer de réguler l'interaction de ses petits-fils avec les écrans. Et pour Mama Jeanne, c'est presque une mission impossible.
J'essaie de conseiller, mais ils sont un peu durs à tenir.
Au quartier Ligéfa, chez M. Defoe, le contraste est frappant.
C'est la maman qui leur donne cette liberté-là. Quand je prends mes télécommandes, je garde, elle prend, elle leur donne.
Ici règne une véritable discipline.
Quand elle parle là, c'est d'un ton autoritaire, zéro tolérance.
Malheureusement, aujourd'hui, cette discipline dans l'usage des écrans par les enfants, elle est pourtant impérative face aux troubles de plus en plus observé, indique le docteur. docteur Claire Nkoué, orthophoniste.
Les enfants sont coupés de l'affection des parents, de son environnement de vie. Ça va être des enfants nerveux, perte de sommeil, perte d'appétit. On doit se donner des moments pour jouer avec eux.
Tel est le sens à donner à la sensibilisation aux parents de rester des exemples pour leurs enfants, même dans l'usage des outils numériques.
À Mahoua, dans la région de l'extrême nord, la période de vacances est généralement consacrée au divertissement entre amis et aux activités champêtres. Mais de plus en plus, les enfants boudent les champs pour rester scotchés aux écrans de télévision et aux smartphones, malgré les risques auxquels ils s'exposent au quotidien. Nicole Massai.
Les tout-petits et même les adolescents en cette période de vacances dans la ville de Mahoua, visionner un passe-temps favori qui met très souvent l'entourage aux oubliettes.
J'aime voir la télé parce que c'est divertissant.
Mon meilleur Tintin Enya Bluey et la maison magique de Nickel.
À en croire ces derniers, cette attitude est encouragée par les parents.
Maman ne veut pas que je sorte dehors pour jouer avec les amis.
Nos parents nous interdisent de sortir parce que le dehors est dangereux.
Pourtant, les psychologues sont unanimes. Un enfant qui a toujours vécu dans la solitude et encore plus devant les écrans pourrait être plus spectateur qu'acteur dans la société. Christelle Aoumimani, psychologue.
L'hyperactivité à l'écran peut constituer un facteur de désocialisation. On aura donc une personne adulte qui aura des difficultés à interagir avec les autres, à exprimer ses opinions, pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce que dans son enfance, cela ne lui a pas été inculqué.
Alors qu'on déplore l'impact de la télévision sur les enfants, des cinémas de circonstances sont créés dans les carrefours à Mahoua. Il n'est donc plus rare de retrouver des enfants dont l'âge varie entre 5 et 15 ans, scotchés devant les écrans jusqu'aux heures tardives. Mahoua, Nicole Massai, CRTV.
Plusieurs parents se plaignent que leur progéniture passe la majeure partie du temps sur le téléphone, les tablettes ou les consoles de jeux, refusant de participer à d'autres activités. Et selon les sociologues, cette dépendance aux écrans est un phénomène inquiétant. Ils invitent par conséquent les parents à prendre des mesures pour éviter le pire. Marlise Enoa Bargaoumo de CRTV Centre.
Dès son réveil, Junior, 3 ans, est déjà bien installé devant le petit écran. Pour sa maman Zaviri, difficile parfois de le détourner de son poste.
Si, il y a des gens qui sont ici. Ici, nous sommes au canal numéro 92, c'est 10 de Junior.
Aïcha, une autre maman, vit quasiment la même situation, surtout pendant cette période de vacances scolaires.
Passe-temps favori de mes enfants pendant les vacances, ce sont les dessins animés. Moi, j'ai de la peine à suivre mes propres programmes.
Les tout-petits sont accros aux dessins animés et les plus grands au téléphone et jeux vidéo.
Je considère mon téléphone comme ma seconde vie parce que sans mon téléphone, je suis malade.
TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram et bien d'autres, autant d'applications qui captivent et rendent accro. Impossible parfois de mener d'autres activités, les professionnels de santé mettent en garde contre les effets néfastes de cette dépendance des écrans chez les enfants. Et face à ce constat, certains parents posent des limites et orientent leurs enfants vers d'autres activités.
Pour remédier à ça, je recherche les activités.
Le matin, je les occupe d'abord, chacun avait une tâche. L'autre balaye le sol, l'autre range les chaussures. Quand ils sont en train de jouer, ils ont tous les jeux, les vélos, le ballon.
Il est important de prendre conscience, de trouver un équilibre entre l'utilisation des écrans et les autres activités pendant cette période de vacances scolaires. Pour le développement harmonieux des enfants, les écrans ou la vraie vie, il faut choisir. Centre Marlise Enoa Bargaoumo, CRTV.
Le temps d'exposition des enfants aux écrans est de 2 heures par jour, pas plus, selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais avec l'évolution de la technologie, ce temps a triplé pendant les vacances, notamment en Afrique. L'addiction des jeunes aux écrans inquiète les parents. Des activités éducatives et sportives peuvent contribuer à briser cette addiction. Dites-vous, Gilles-Claude Bon-Itundi.
Le ludo, c'est le roi des jeux de société. 4 joueurs, 4 couleurs, chacun lance le dé et avance ses pions selon le chiffre obtenu. Les parties sont rapides et remplies de rebondissements. On est loin, bien loin du mal des yeux et des troubles du sommeil auxquels se connectent les jeunes accros aux écrans. Avec le Scrabble et les jeux d'échecs, le Ludo fait partie du trio de tête pour apprendre à compter, à planifier et à développer le fair play tout en s'amusant. Vous avez dit fair play, eh bien son symbole le plus fort, c'est le football. Ce sport a la couronne des divertissements de vacances au Cameroun. Une bonne partie de football, de basketball ou de handball peut faire des miracles pour la santé physique des jeunes. Le sport aide à développer la coordination, l'équilibre et l'endurance tout en inculquant les valeurs comme l'esprit d'équipe et la persévérance. Pas de place pour les kilos en trop que la sédentarité impose aux jeunes adeptes d'écrans connectés. La diminution de l'activité physique peut entraîner l'obésité et les troubles de la concentration à l'école, avec pour conséquence des notes scolaires, souvent salées. Les activités manuelles comme la peinture ou le bricolage canalisent l'énergie débordante des enfants. Elles favorisent leur développement psychomoteur. L'Organisation mondiale de la santé révèle que les enfants passent environ 4 à 6 heures par jour devant un écran. Cela fait 1400 heures par an. Un temps précieux qui pourrait être utilisé pour découvrir les joies de la lecture ou les mystères d'un instrument de musique. Avec ce gâchis, vos enfants pourraient peut-être obtenir le doctorat en zapping.
Elle est une spécialiste du numérique éducatif. Elle officie à la CRTV en qualité de chargée d'études numéro 4 et mène depuis le début de l'année une campagne de sensibilisation des parents sur les effets nocifs d'une surexposition des enfants aux écrans et propose des alternatives pour occuper sainement les enfants. Madame Céline Victoria Foto, invitée du soir, répond aux questions d'Agnès Sylviane Antama.
Céline Victoria Fosso, sensibiliser les parents à l'utilisation des écrans par les enfants, quelle en est l'urgence aujourd'hui?
De par le monde, les médecins mettent en garde contre l'utilisation prolongée ou prématurée des écrans, notamment au niveau des enfants. Il est désormais su qu'avant 3 ans, un enfant ne devrait pas regarder la télé, ni les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. Donc, il est tout à fait proscrit d'exposer un enfant de moins de 3 ans à ces écrans-là. Parce que tout simplement, via les études, on a constaté qu'il jouait un rôle très, très néfaste dans le développement. Que ce soit la parole, la communication, même cognitive, est impactée lorsqu'il y a utilisation des écrans. Et donc, le Cameroun n'y échappe pas. Dès qu'un enfant pleure, on lui donne le téléphone pour le calmer. L'enfant maîtrise le téléphone. Il y a même une addiction. Des enfants, quand on ne lui donne même pas le téléphone, quand on ne lui donne pas la tablette, l'enfant est capable de faire une crise énorme.
Le constat pour vous est alarmant et choquant. À quel point, pour crier au réveil des parents, qu'abandonner leur progéniture devant les écrans est une mauvaise pratique?
C'est effectivement très inquiétant. Il faut vraiment que les adultes, je ne vais même pas seulement dire les parents, parce que ce n'est pas que les parents qui forment la sphère familiale des enfants, mais les adultes qui entourent ces enfants, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les grands frères et grandes sœurs, les nounous, les ménagères, bref, toutes les personnes susceptibles d'encadrer les enfants au quotidien doivent savoir qu'il est tout à fait proscrit d'exposer les enfants à ces appareils, aux écrans.
Et les conséquences de cette surexposition aux écrans sont nombreuses.
Ça joue sur la capacité de la créativité, ça joue sur plein de choses. Il y a de plus en plus d'enfants dans les cabinets d'orthophonistes et autres qui rencontrent des difficultés à l'école. Nous, à l'époque, on était tout le temps dehors, on jouait, on montait aux arbres, on vivait la vie telle qu'elle doit être vécue, c'est-à-dire dans la réalité, dans le présent, dans le concret. Par exemple, pour comprendre ce qu'est une forme, un enfant a besoin de toucher peut-être une boule pour comprendre que c'est rond. Un enfant ne peut pas le comprendre à travers une tablette. Donc l'expérience de la vie se fait dans la réalité. Et ça, il faut vraiment que les parents y fassent très attention. Il faut qu'ils soient urgemment informés pour qu'ils comprennent les conséquences sur leur progéniture et qu'ils prennent des mesures. Il vaut mieux mettre un livre entre les mains d'un enfant ou même un jouet qu'une tablette, qu'un téléphone. Ça fera beaucoup plus de bien. Après 3 ans, il faut limiter parce que déjà même ça peut faire mal aux yeux, ça peut faire mal à la tête. Après ça, même pour le développement social des enfants. Il faut que les parents soient au courant, les adultes en général, qui puissent faire comprendre que l'utilisation des écrans ne se fait pas avant un certain âge. Et même lorsqu'on a dépassé cet âge-là, il se fait avec encadrement pour le bien de nos enfants.
Céline Victoria Fosso, chargée d'études numéro 4 à la CRTV. Merci.
Voilà.
Mmh. Vous êtes sur le poste national de la CRTV. Pour ce qui est de la lutte contre le paludisme, un nouveau projet bientôt expérimenté dans la région du Nord. Il s'agit du SEMBE2, un système pour mettre fin au fardeau du paludisme à travers un engagement significatif. Le programme lancé officiellement ce mardi par le ministre de la Santé publique, Manaoud Amalachi, est une initiative de 5 organisations à but non lucratif affiliées à l'Université Johns Hopkins des États-Unis. L'objectif est de réduire significativement la morbidité et la mortalité liées au paludisme dont les taux restent encore élevés au Cameroun. Rose Okoko.
Plus de 3 millions de cas de paludisme enregistrés au Cameroun en 2022 et près de 3 000 décès liés à cette pathologie la même année, selon le Programme national de lutte contre le paludisme. Pour éradiquer la maladie, une nouvelle offensive se déploie dans la région du Nord, le SEMBE 2. William Chouahiroua, coordonnateur du projet.
Le SEMBE 2, c'est un projet de PMI qui a venu de soutenir le gouvernement camerounais. Le paludisme dans la région du Nord est quand même très élevé.
Lancé ce mardi par le ministre de la Santé publique, Manaoud Amalachi, le programme est mis en œuvre dans 15 districts de la région du Nord. Sa stratégie de lutte se fonde sur 3 axes, la prise en charge gratuite des cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, la prévention et le plaidoyer. L'initiative bénéficie par ailleurs de l'appui financier de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Christopher John Lamoura, ambassadeur des États-Unis au Cameroun.
Et c'est vraiment important que nous continuions la lutte que nous avons commencée. Nous allons essayer de changer un peu le comportement des gens pour qu'ils utilisent par exemple les moustiquaires correctement.
Le programme SEMBE2, qui s'étend sur 5 ans, ambition de réduire les taux de mortalité et de morbidité dans la région du Nord où les populations sont fortement touchées par la maladie.
La population du Sud-Ouest exprime leur gratitude au chef de l'État pour la construction de l'axe routier Koumba et Kondo-Titi. Le préfet de la Mémé, Chamberlain Ntou Ondong, sur le site ce jour, a dit sa satisfaction au regard de l'avancée des travaux, tout en rappelant au directeur du projet l'importance de cet axe pour le chef de l'État. Le gouvernement s'engage à renforcer les compétences et l'expertise de l'Institut de formation professionnelle aux métiers ferroviaires en Afrique. C'est l'objet de la convention de partenariat signée ce mardi à Douala entre le ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibéhé et le promoteur de cette structure Théophile Moutan. C'était en présence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Issa Tiroma Bakari. Compte rendu, José Gaëtan Tanga.
La construction dans les prochains jours des lignes de chemin de fer Douala-Limbé-Idenao, aidée à Kribilola-Bekampo et bien d'autres chantiers, va mobiliser les métiers du rail, cheminots, soudeurs, chefs de gare, techniciens et autres. La formation est donc un préalable. Théophile Moutan, promoteur IMIFAC.
Le chemin de fer est resté caché pendant longtemps maintenant parce que les méthodes à l'époque n'étaient pas comme aujourd'hui. On n'avait pas aussi autant besoin de personnel qualifié que maintenant. Donc il faut communiquer, il faut que tout le monde sache qu'il y a des emplois qui existent. Il faut tout simplement venir se faire former parce que pas d'emploi sans formation.
Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tiroma Bakari, cheminot de formation, souhaite la mise à disposition d'une main-d'œuvre qualifiée, mais surtout durable. L'Institut de formation professionnelle aux métiers ferroviaires en Afrique propose 23 métiers comme module depuis sa date de création en 2020. Douala, José Gaëtan Tsanga, CRTV.
Décentralisation et développement local, les maires du Nord-Ouest appellent le Public Independent Conciliator et le Bureau national d'état civil à sensibiliser les centres d'état civil secondaires afin de faciliter le transfert des registres vers les mairies. C'est en vue de lutter contre le trafic des faux documents. Doléances formulées ce mardi à Bamenda au cours de la réunion d'évaluation des activités des communes. Laurent Chissoukbé.
La ville de Bamenda et le département de la Mésame en général dégagent ces derniers temps une atmosphère de sécurité qui rassure. Un constat fait par l'ensemble des autorités administratives et les responsables des forces de défense et de sécurité depuis la mise en application de l'arrêté préfectoral interdisant la circulation des motos à Bamenda entre 18h et 6h du matin. Simon-Émile Mont est le préfet de la Mésame.
La situation sécuritaire dans le département de la Mésame est en
entièrement sous contrôle, en dépit de quelques cas isolés d'actes criminels. Et nous sommes heureux de constater que les populations ont bien accueilli les mesures sécuritaires qui ont été prises.
Au cours de cette assise, il ressort également que le département de la Mésame présente des garanties de sécurité à même d'accueillir tous ces projets annoncés. La réhabilitation de la voirie urbaine, le bitumage de la traversée de la ville et autres initiatives de développement. Les acteurs appellent à la collaboration des populations.
Nous avons besoin de collaboration des populations pour que les forces de maintien de l'ordre, les autorités administratives puissent les encadrer de manière efficiente.
La Mésame est le cœur de la région du Nord-Ouest. Sa santé sécuritaire et économique impacte naturellement le reste de la région. Hop Station Bamenda, Laurent Chitsoubé, CRTV.
Retour à Yaoundé, à la CRTV, trois nouveaux responsables intègrent les rangs du pôle radio. Leur feuille de route était énoncée au cours de leur installation ce mardi. Le directeur central, Madeleine Sopikoto, a invité les trois journalistes à respecter leur cahier de charges. Christelle Boudjika.
C'est un trio féminin qui prend fonction 7 jours après la nomination par résolution du conseil d'administration réuni en sa 58e session extraordinaire. Ces nouveaux talents sont des visages connus à la maison de la radio. Ainsi, le cabinet du directeur central accueille Françoise Coquichouès, éditorialiste, précédemment rédacteur en chef à la direction régionale de CRTV Littoral.
Je remercie ma hiérarchie pour la confiance qui m'a été accordée. J'ai une feuille de route précise qui s'inscrit dans le cadre de mes fonctions d'éditorialiste. Il sera notamment question de poursuivre ma chronique et de produire un certain nombre d'émissions. Je suis très, très heureuse d'être à la radio de retour.
Tony Nanyongo est la nouvelle chef de l'unité de production des grands événements et des programmes spéciaux. Elle succède à Daniel Augustin Mpek Mintamak, admis à faire valoir ses droits à la retraite. La dernière élue est Louise Akwanka, désormais chef de l'unité de la promotion de la régie d'antenne. La journaliste remplace à ce poste Jacques Armand Pomme, appelé à d'autres fonctions à la télévision. À ces trois responsables, le directeur central Madeleine Sopikoto a souhaité pleine réussite et beaucoup d'épanouissement dans la mise en œuvre de leurs missions respectives.
Engagement commun pour accélérer l'industrialisation et la diversification des économies de la CEMAC, c'est le thème de la retraite qui réunit depuis hier à Malabo en Guinée équatoriale le gouverneur de la CEMAC et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, co-conduit Jean-Luc Mastaki, directeur du bureau Afrique centrale. Le vice-président de la Commission de la CEMAC, Charles Assamba Ongodo, présente le contexte de ces assises. Il était joint au téléphone par Sylvain Yarman.
L'enjeu important, il ne concerne pas que la Commission, il concerne la sous-région d'Afrique centrale qui est la moins intégrée d'Afrique. Il s'agit donc de renforcer les capacités à travers un cadre de collaboration que nous souhaitons bénéfique avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour que nos compétences soient suffisamment renforcées afin que la CEMAC puisse jouer son rôle pour harmoniser les politiques d'industrialisation, les politiques commerciales pour nous rendre nos économies plus compétitives. L'industrialisation parce que l'Afrique centrale, comme chacun des pays qui la composent, est aujourd'hui engagée dans la transformation structurelle de ses économies et la diversification de celles-ci. Alors, il faut d'abord pouvoir transformer. Il faut que les chaînes de valeur soient suffisamment solidifiées, confortées, pour qu'on puisse commercer.
Sport, les récents exploits réalisés par les athlètes camerounais en catch, présentés au ministre des Sports et de l'Éducation physique cet après-midi. Occasion pour le professeur Narcisse Mouelle Kombi d'adresser ses encouragements à la Fédération camerounaise de catch, présidée par Maître Emmanuel Ndo, pour les progrès accomplis, notamment le titre de championne d'Afrique de catch remporté par la camerounaise Poney Vadex, toute première femme en Afrique à ceux ici au firmament. Nous vous proposons d'écouter Poney Vadex et Pina Humphrey de retour d'un combat mondial qu'il a gagné aux États-Unis. Propos recueillis par Samuel Billon.
Je suis vraiment très heureuse d'avoir présenté ma ceinture chez le ministre. Je suis très contente et je promets encore le meilleur. C'est pas facile vraiment de porter cette ceinture qui est vraiment lourde, mais je suis heureuse de mon travail parce que c'est grâce au travail que j'ai pu obtenir cette ceinture. Donc, j'exhorte mes sœurs camerounaises de faire autant.
Se préparer pour ce combat, ce n'était pas vraiment facile. Mais quand j'ai vu mon adversaire, j'ai paniqué puisqu'il a 10 kilos de plus que moi. Mais quand j'ai lancé une attaque sur lui, j'ai vu que ce n'était pas ce que je pensais. J'ai rendu ce combat très court. En moins de 4 minutes, j'avais mis son dos au sol. Là, ça me motive plus parce qu'au retour, au lieu de 4 minutes que j'ai fait, je vais faire plutôt 2 minutes. Je me prépare déjà pour ça.
Enjeu du sport comme outil de résolution des problèmes sociaux et de santé au Cameroun. Un projet d'étude sur cette problématique était présenté au président du Comité national olympique et sportif cette mi-journée par une équipe de chercheurs britanniques et camerounais. En clair, il est question de promouvoir le sport comme outil de plaidoyer à l'atteinte des objectifs de développement à l'échelle du Cameroun. Et puis, en culture, lancement ce jour du projet pilote d'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la région du centre. Initié par le Cameroun avec l'accompagnement de l'UNESCO, le projet vise la sauvegarde de ce patrimoine dans un catalogue. La cérémonie était présidée par le ministre des Arts et de la Culture, Bidon Pat, sur les tenants et les aboutissants de cette initiative. Écoutons Paul Couster, le directeur régional pour l'Afrique centrale, représentant de l'UNESCO au Cameroun. Il est au micro d'Ariel Olivier Azoua.
Il y a plus d'une décennie d'efforts pour répertorier l'immense patrimoine culturel du Cameroun de manière systématique par le ministère des Arts et de la Culture. Et aujourd'hui, cet effort prend une nouvelle dimension parce qu'il s'intègre dans la convention de 2003 de l'UNESCO du patrimoine immatériel de l'humanité et dans un processus qui a déjà été récompensé au Cameroun avec l'inscription d'une guone et avec 3 ou 4 autres traditions qui sont inscrites. Mais le but aujourd'hui est d'avoir un répertoire exhaustif, en commençant par les 10 départements de la région du centre, mais aussi en formant les acteurs culturels au Cameroun à ce recensement afin de faire vivre et de faire profiter le monde entier de cet immense patrimoine culturel du Cameroun.
Retenir de ce journal, les gouverneurs des régions en conclave dès demain à Yaoundé, leur première conférence semestrielle pour l'année 2024, que va présider le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyi, aura pour fil conducteur autorités administratives et maintien de l'ordre en période préélectorale. 20h31, fin de ce journal. Technique Christian Foucault, réalisation Marie-Claire Messier Kopna, rédacteur en chef Simon Lyonga. Je suis Marie-Chantal Noah. Merci, excellente soirée et sur la Cameroun Radio Télévision.